إذاعة الشمس.
Chers amis, auditrices et auditeurs de Radio Soleil, bonsoir et bienvenue sur votre radio préférée. C'est Mohamed Ben Saïd dans l'émission de Démocratie et Citoyenneté. Mohamed Ben Saïd de la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives, une des associations de l'immigration. Et dans l'émission de Démocratie et Citoyenneté, nous la faisons en binôme avec notre ami Bernard Delemotte de l'ACK, l'association des citoyens, de l'expression des citoyens d'Amiens, des communautés d'Amiens. Et est-ce que Bernard a appelé ou il est en ligne?
Oui, je suis là, je suis bonsoir. En ligne. Allez, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Bernard, bonsoir. Donc nous avons vu ensemble sur la question du droit de vote des résidents étrangers un peu les pays qui ont accordé en Europe, qui accordent le droit de vote des résidents étrangers. On a vu plusieurs pays initiateurs et on a vu aussi les 10 pays du l'ancien bloc de l'Est qui ont rejoint l'Europe. Et aujourd'hui, on va parler dans deux émissions de deux pays particuliers ou de quelques pays particuliers qui accordent le droit de vote, pas à tous les résidents, mais Bernard va nous en parler. De quel pays on va parler, Bernard ?
Alors ce soir, on parle de l'Espagne et du Portugal,
oui.
Deux pays très proches géographiquement et aussi historiquement. Ils ont fait partie d'ailleurs à un moment du même royaume et ils ont eu vis-à-vis des étrangers des politiques assez proches. Alors ce sont d'ailleurs des pays qui ont été pendant longtemps des pays d'émigration et des pays colonisateurs, des pays d'explorateurs et qui notamment l'Amérique et également en Afrique, mais qui ont également exporté, émigré beaucoup de leurs habitants vers l'Europe. Et alors le premier d'Espagne est le plus grand, 50 millions d'habitants, c'est un des plus grands pays de l'Europe. Et ça n'est que depuis 1980 qu'il est un pays d'immigration, et une immigration qui porte sur trois zones essentiellement. L'Amérique latine, puisqu'ils ont colonisé ces pays, et également l'Europe de l'Est. Alors, Amérique latine, il y a à peu près un demi-million d'étrangers originaires d'Amérique latine en Espagne. L'Europe de l'Est, surtout la Roumanie, il y a 700 000 Roumains actuellement en Espagne, mais aussi, bien sûr, le Maroc. Hein, le Maroc, où il y a près d'un million de Marocains en Espagne, il y a une proximité géographique. Hein, et en plus, l'Espagne occupe encore une partie du nord du Maroc, hein, à Ceuta et Melilla, et donc des liens très forts d'immigration entre les deux pays.
Avec l'Espagne et le Maroc, il y a aussi l'immigration un peu culturelle et historique. Hein, quand on va à Hamra ou bien quand on va en Andalousie, c'est vraiment, on se sent chez soi, c'est-à-dire que ce sont des cultures partagées et communes.
Voilà. Ah oui, et comme à la fin de l'ère franco, une partie importante des opposants à Franco qui avaient fait la guerre contre lui, les républicains, sont venus en France.
Beaucoup sont revenus en France, sont venus en France et se sont installés, et nous nous battions avec eux dans les associations, dans le CAIF et dans les instances des associations de l'immigration, comme le CAIF, avec les Portugais, avec les Espagnols, surtout avec les Portugais et les Espagnols, beaucoup plus qu'avec les Italiens. Voilà, mais il y avait aussi les Arméniens, il y avait d'autres nationalités de l'Europe sur lesquelles on se battait tous pour la question de la citoyenneté et du droit de vote de tous les étrangers.
Oui, il y a depuis longtemps une forte mobilisation associative en Espagne pour le droit de vote de tous les étrangers. Alors, ils ont, en 1978, modifier la Constitution, oui. Et dans cette Constitution, il y a le principe de droit de vote aux élections locales si il y a réciprocité, donc avec d'autres nations, s'il y a des réciprocités, si des traités sont signés. Et ça s'est transformé dans une loi électorale en 1985, ce principe, donc, de réciprocité entre les États pour le droit de vote des étrangers. Donc, bien avant que l'Espagne adhère à l'Union européenne, puisqu'elle a adhéré en 1986, et donc en 1986, elle a appliqué le traité de Maastricht, c'est-à-dire que elle a accordé le droit de vote aux résidents de tous les autres pays européens, mais elle avait déjà donc dans sa constitution et dans sa loi électorale la possibilité de faire des traités de réciprocité. Alors, disons, pendant un certain temps, c'est resté simplement sur le papier, mais en 2006, un nouveau vote au Parlement réaffirme ce principe de réciprocité, et surtout, le gouvernement de l'époque, qui est le Premier ministre, et Zapatero, un socialiste, mène une politique active pour cette réciprocité du droit de vote, et il nomme même un ambassadeur itinérant qui va aller visiter notamment tous les pays d'Amérique latine pour mettre en place cette réciprocité. Si bien qu'aux dernières élections municipales, il y avait ont pu voter à la fois tous les ressortissants des autres pays de l'Union européenne, et notamment les ressortissants des pays de l'Est, roumains, bulgares, etc. Ensuite, 12 autres pays qui ont signé des accords de réciprocité. Les pays d'Amérique latine de langue espagnole, Venezuela, Bolivie, et Uruguay, Paraguay, Chili, et le Cap-Vert, qui lui est une ancienne colonie portugaise et pas espagnole, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande, parce qu'ils accordent depuis longtemps, eux aussi, le droit de vote aux étrangers.
D'accord, et, mais là, il y a un couac. C'est-à-dire qu'il y avait des changements, surtout récents, hein, donc après 2006, bien sûr, c'est vers après 2011. Il y a eu un changement de la Constitution au Maroc pour pour faire les et donc on connaît très bien l'ami qui a participé à la rédaction de la Constitution, c'était Driss Ilyasami, qui était membre, qui était résident ici en France et qui était en faveur du droit de vote, et qui est toujours en faveur du droit de vote de tous les étrangers, et qui a fait par son expérience et son vécu, donc qui a essayé d'appliquer ça au Maroc une fois il était en position de pouvoir le faire. Et le Maroc, il a changé sa constitution pour permettre la réciprocité avec donc il permettrait à tous les étrangers qui résident au Maroc de pouvoir participer aux élections locales. En contrepartie, aussi les Marocains qui résident dans des pays comme l'Espagne ou en Europe pourraient le faire. Mais ça n'avait pas bien fonctionné de ce point de vue.
Mais c'est d'ailleurs l'Espagne qui a un ambassadeur a été en Espagne et il y a eu vraiment l'Espagne qui a poussé à ce changement de constitution.
Oui.
Mais malheureusement les textes de loi pour l'application n'ont jamais été votés au Maroc et donc pour le moment il n'y a pas réciprocité entre l'Espagne et le Maroc.
Non, ce n'est pas pas seulement c'est possible que les textes n'ont pas été votés au Maroc, mais aussi comme si vous vous rappelez bien Bernard, comme nous a expliqué l'intervenant espagnol qui était venu au colloque au Palais du Luxembourg. Donc ce qu'il nous a dit c'est que il y avait toujours cette réticence. Bon, ils disent que le Maroc ne répond pas tout à fait aux normes de démocratie telles qu'elles existent en Espagne. Là aussi, au niveau de il y a eu un changement de gouvernement. Zapatero n'est pas resté plus longtemps. Il y avait un gouvernement de droite qui était venu après et qui n'était pas très chaud, effectivement, pour entériner un peu. Donc, malheureusement, donc, ça n'a pas abouti à tout le cadre juridique qui est prêt. Et du moins du côté du Maroc et du côté du gouvernement de Zapatero. Donc il faut espérer qu'il y ait des changements d'orientation politique dans les deux pays pour que ça puisse se concrétiser.
Tout à fait, tout à fait.
Et vous dites que c'est les Cap-Verdiens peuvent voter en Espagne.
Tout à fait, oui. Les Espagnols votent Cap-Vert et les Cap-Verdiens peuvent voter en Espagne.
D'accord.
Comme ils peuvent voter également au Portugal, on va le voir.
D'accord. Et par rapport... Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de changements de gouvernement en Espagne.
Oui, il y a eu beaucoup, effectivement. Et des coalitions aussi... plus récemment, oui, c'est bon, effectivement.
L'idée, elle était relativement mûre, hein, donc voilà, elle est relativement mûre.
La mobilisation des associations continue, avec les campagnes, il y a eu une campagne qui, à qui vivo, à qui voto, je vis, je vote. Où je vis, je vote.
Je vis ici, je vote ici. Hein. Où j'y suis, j'y vote. On a traduit ça en français. D'accord.
Voilà.
Oui.
Et bon, je vais maintenant dire quelques mots sur le Portugal. On verra qu'il y a beaucoup de choses communes. Alors le Portugal, c'est bien sûr un pays moins nombreux, 10 millions d'habitants et 500 000 étrangers. Alors, venant alors du Brésil, alors beaucoup du Cap-Vert, hein, qui était une ancienne colonie, mais également, comme en Espagne, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent de l'Europe de l'Est. Et là, on a vu que c'était la Roumanie en Espagne. Au Portugal, c'est l'Ukraine les événements récents, avait une immigration importante au Portugal.
D'accord.
Alors, dans les deux pays, on a connu des dictatures assez longues. Alors, Salazar au Portugal, Franco en Espagne. Et en fait, le pays s'est vraiment libéré sur le plan des rapports avec l'étranger que après la fameuse révolution des œillets en 1974. Et donc la prise de pouvoir de militaires et qui installe la démocratie dans le pays.
Oui, ça c'est le Portugal, je me rappelle, effectivement, c'était un pays tellement fermé, tellement répressif, et tellement, c'était vraiment une dictature, c'est Salazar, effectivement, je me rappelle de ça quand j'étais étudiant.
Mais une émigration importante de Portugais, par exemple, vers la France, vers le Luxembourg, etc., a commencé sous Salazar, parce que le Portugal avait des guerres coloniales avec le Mozambique, l'Angola et les pays autour du Cap-Vert qui réclamaient leur indépendance. Et beaucoup de Portugais fuyaient le Portugal pour échapper aux services militaires. Et donc il y a eu, on a déjà expliqué qu'au Luxembourg, une partie importante de la population, 14% de la population, est originaire du Portugal.
C'est important.
Alors, l'immigration au Portugal est surtout, donc, vient surtout de leur ancienne colonie, et donc, dans ces anciennes colonies, indépendantes depuis longtemps, il y a le Brésil, hein, qui est en Amérique latine, le seul pays qui parle portugais, les autres pays d'Amérique latine parlant espagnol. Donc le Brésil, il y a beaucoup de Brésiliens au Portugal et des gens venant des autres colonies africaines, Cap-Vert, Mozambique, Angola.
D'accord.
Et rapidement, la constitution là aussi, après la révolution des œillets et la fin du régime de Salazar, a été modifiée et elle prévoit aussi, comme en Espagne, la possibilité d'accorder le droit de vote s'il y a un traité de réciprocité. Et comme plusieurs pays d'Amérique latine avaient accordé depuis longtemps, on en parlera peut-être ultérieurement, le droit de vote aux étrangers, donc aux Portugais, les Portugais ont accordé en premier le droit de vote à ces anciennes, aux étrangers, d'origine des anciennes colonies, notamment d'Amérique du Sud, et c'est les premiers qui ont pu voter au Portugal.
C'est-à-dire le Brésil, les Brésiliens, ou bien d'autres,
Oui, pardon, les Brésiliens, mais aussi donc les Cap-Verdiens, les Angolais,
c'est l'Espagne qui a plusieurs
Amérique latine.
C'est l'Espagne qui a plusieurs anciennes colonies. Et on a vu que sur cette question de participation des étrangers, plusieurs pays, peut-être vous nous en parlerez une autre occasion, plusieurs pays d'Amérique latine sont bien avancés sur ces aspects-là.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc le principe, alors c'était un peu particulier, parce que avec le droit de vote au Portugal, les personnes qui parlaient portugais,
oui.
Et donc, c'était donc ce que j'ai cité comme pays d'origine,
oui.
Et essentiellement d'Amérique latine.
D'accord.
Ça, c'était donc aussi avant l'adhésion à l'Union européenne qui s'est faite, comme l'Espagne, en 1986. Donc, à partir de 1986, comme dans les autres pays de l'Union européenne, les résidents venant d'Europe, des autres pays européens, ont pu voter aux élections municipales et européennes, donc à partir de 1986. Et donc ensuite, le Brésil a été un des premiers pays à avoir des liens très proches avec le Portugal, a gardé. En fait, le Brésil a été indépendant bien avant les colonies africaines, mais a gardé des liens proches avec le Portugal, et ça a été le premier pays qui avait un accord de réciprocité sur le droit de vote.
Okay.
Et ensuite, ça a été le Cap-Vert, puis donc d'autres pays non lusophones ont également signé des traités de réciprocité, et notamment des pays européens comme l'Islande, la Norvège, qui accordent le droit de vote à tous les étrangers. Et les Portugais ont donné le droit de vote aux Islandais, aux Norvégiens, aux Irlandais, mais après 3 ans de résidence et sans éligibilité. Donc il y avait une petite réserve par rapport, l'Islande et la Norvège ne font pas partie de l'Union européenne, donc la réciprocité n'est pas comme pour les ressortissants des autres pays de l'Union européenne qui n'ont pas de durée de résidence. Pour les Islandais et Norvégiens, il faut 3 ans de résidence pour pouvoir voter et ils n'ont pas l'éligibilité.
D'accord.
Ils ne peuvent pas être élus.
Et donc, Maastricht, il est...
Non, l'Afrique, le Cap-Vert, si, oui, mais c'est le seul pays, en fait, qui a signé un accord de réciprocité. D'accord. Donc, il y a surtout le Brésil qui, lui, a un accord très ancien. Mais aussi des pays d'Amérique latine, le Venezuela, le Chili, l'Argentine, donc des pays de langue espagnole, ont signé un traité de réciprocité.
D'accord. Et ça nous a posé un problème.
Désolé, je m'excuse, mais je vais laisser la parole à.
Oui, voilà. Je vais la prendre juste pour dire que avant, comme vous l'avez dit, que ce soit à Amiens ou à d'autres endroits, donc il y avait les Portugais qui se faisaient représenter au conseil consultatif des mairies.
Avant qu'ils aient le droit de vote par le traité de Maastricht. Oui. Il y avait déjà à Amiens, dans d'autres villes, qui ont fait des expériences de conseil consultatif des étrangers, donc des Portugais et qui ont été élus dans les conseils municipaux comme conseillers associés. Oui. Donc ils avaient pas le droit de voter et ils pouvaient par contre participer au conseil municipal de leur ville de résidence et pouvaient intervenir dans les débats.
Oui, ils avaient participé avec le contenu. Les Portugais étaient plus mobilisés que les Espagnols. Les Espagnols étaient mobilisés parce que je me rappelle, enfin ce que me disent aussi les anciens qui ont fondé aussi cette Radio Soleil et donc comme Saïd, comme Driss, comme Mohedine, comme Mohsen et tout ça, ils me disent voilà, donc il y avait beaucoup de mobilisation avec les Portugais. Sur les questions communes, et jusque-là, les rapports sont très, très solidaires entre les militants et les générations, hein, donc portugais et espagnols. Mais il y avait plus de mobilisation côté portugais, et un esprit plus communautaire et solidaire.
Il y a d'ailleurs un exemple assez caractéristique sur ce point. La ville de Cerisé, dans les Deux-Sèvres, oui, qui a mené la même expérience donc de conseiller associé, oui, avait surtout comme étranger une communauté portugaise. Et il y a eu d'abord 5 élus portugais, hein, les seuls élus ont été portugais, c'était pratiquement les seuls étrangers de la commune, cette commune de 5000 habitants, mais qui contenait une usine qui faisait notamment des cars et la carrosserie qui s'appelait Eulier, et qui avait fait un ramassage de Portugais. Et l'usine, les 4/5 des ouvriers de cette usine étaient portugais, qui ont fait venir leur famille. Et quand il y a eu l'adhésion du Portugal à l'Union européenne, ces Portugais ont pu voter et pour les élections municipales là, de manière comme les autres Européens. Mmh. Et ils sont devenus, ils avaient d'abord été... Plusieurs avaient d'abord été conseillers associés, sans droit de vote, et après l'adhésion à l'Union européenne, ils sont devenus conseillers à part entière, avec droit de vote.
Ben c'est très bien. C'est des choses qui avancent. J'espère que ça avancera pour tout le monde, sans discrimination de nationalité ni de passeport. Écoute, merci beaucoup, Bernard.
Oui, je vous quitte ce soir parce que j'ai des problèmes.
Non, mais aussi, on termine un peu cette... aujourd'hui, c'est un peu particulier, donc on va terminer un peu tôt,
okay,
peut-être.
Merci.
Ben, merci à vous, hein, merci pour toutes ces informations et ce travail qui a été fait pour préparer cette émission. Et pour nous aussi, on apprend aussi des choses. Merci à Saliha qui est toujours là. Elle nous soutient, elle nous accueille, elle nous attend disponible. Donc, pour Radio Soleil, merci à Radio Soleil de nous offrir un peu cet espace. C'est une question qui est encore d'actualité. Je rappelle qu'il va y avoir des mobilisations ce dimanche à 11h à la Porte de la Chapelle. Il va y avoir, c'est la journée internationale des migrants et ça sera une manifestation de solidarité avec ce mouvement ce dimanche donc à 11h à la Porte de la Chapelle. Et il y a un projet de loi constitutionnelle pour le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales qui sera probablement au devant de la scène au printemps prochain et à laquelle on se prépare avec des élus et des députés. C'était l'émission Démocratie et Citoyenneté, Mohamed Ben Saïd avec Saliha à la technique et tous les amis de Radio Soleil. Merci beaucoup.